7-9.
Soyez les bienvenus sur Inter, nous sommes le mardi 19 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'offensive russe dans le Donbass, elle a commencé, l'est de l'Ukraine bombardé massivement. C'est le président ukrainien qui l'annonce, on le voit en détail Anaïs, après les autres titres.
La présidentielle Marine Le Pen se prépare pour le débat de demain alors que l'Allemagne s'inquiète de sa possible victoire. Nous serons à Berlin. L'autre procès des attentats du 13 novembre s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. 14 prévenus jugés pour complicité, mais qui encourent bien moins qu'à Paris. Et puis, en binôme, pour vivre le quotidien d'un travailleur handicapé, une initiative à découvrir à la fin du journal.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, à la veille du débat Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et à 5 jours du second tour, on fait le point sur l'état de l'opinion avec le politologue et directeur délégué d'Ipsos, Brice Teinturier. Et puis à 8h20, donc, le grand entretien de la matinale avec le Premier ministre Jean Castex qui sera à notre micro avec Léa Salamé. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Elle était redoutée autant qu'attendue après plus de 50 jours de guerre en Ukraine. L'attaque massive de l'armée russe vient de débuter sur les territoires du Donbass. Même si les combats n'ont pas vraiment cessé sur cette partie du front, ce qui change, c'est désormais l'ampleur de l'offensive. Volodymyr Zelensky, hier soir, sur sa chaîne Telegram.
On peut constater aujourd'hui que les militaires russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle ils se préparaient depuis longtemps. Une partie très importante de l'armée russe est déjà concentrée là-bas pour cette offensive. Autant que possible, nous lutterons, nous combattrons, quel que soit leur nombre. Nous ne donnerons rien de ce qui nous appartient et nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas.
Le président ukrainien hier soir sur Telegram, concrètement Moscou a ramené dans ce secteur toutes ses forces, ses chars, son infanterie, ses troupes, c'est l'enfer, confirme le gouvernement de la région de Lugansk. Et peut-être une première prise russe, la ville de Kremina, attaquée depuis hier, serait sous contrôle des hommes de Poutine malgré les combats de rue. Elle n'est qu'à 50 km de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du bassin houiller du Donbass. À Lysychansk, encore plus à l'est, les civils qui ont pris les armes pour s'engager dans la défense territoriale ne cachent pas leur inquiétude. Nos envoyés spéciaux Omar Waman et Gilles Gallinaro sont sur place.
Depuis cette position, on aperçoit la ligne de front et des colonnes de fumée noire.
La situation est très difficile, car les forces russes bombardent sans arrêt depuis 3 semaines.
Sergueï, en tenue militaire, constate une intensification des frappes russes.
Mais Moscou a envoyé de la chair à canon. Ils ne sont pas motivés. Alors que de notre côté, nous protégeons notre terre natale. Nous défendons notre peuple, nos parents.
Un combat pour la survie de leur nation, mais un combat inégal, déplore Mikhaïl, une barbe de plusieurs mois, la Kalachnikov à l'épaule.
Sans l'aide du monde civilisé, comme l'Europe, l'Amérique, le Canada ou le Japon, l'Ukraine ne parviendra pas à faire face à la Russie.
Ça, c'est une arme américaine.
Bartel, une quarantaine d'années, veut avertir les Européens. Pour lui, le président russe, qu'il a rebaptisé, ne s'arrêtera pas à l'Ukraine.
Un jour, Putler va attaquer l'Europe.
Vous l'appelez Putler ?
Oui, je l'appelle Putler. Tous nos combattants l'appellent ainsi, en référence à Hitler.
Qui peut arrêter Vladimir Poutine ?
L'Union Européenne. Si elle nous apporte l'aide militaire dont nous avons besoin, nous pourrons l'arrêter.
Et la Russie compte bien profiter de cette supériorité militaire pour annexer le Donbass. Lysychansk, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
L'aide militaire en ce moment arrive des États-Unis. La première cargaison de la nouvelle tranche de 800 millions de dollars annoncée la semaine dernière vient d'arriver aux frontières ukrainiennes. 4 vols déjà en moins de 5 jours. Rapidité de livraison sans précédent. Alors que Joe Biden participera aujourd'hui à une réunion consacrée à cette offensive russe dans le Donbass avec ses alliés et ses partenaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, se réunit aujourd'hui à huis clos sur la situation israélienne. Aucun signe d'apaisement après les tensions du week-end pascal sur les lieux saints de Jérusalem. Des frappes ce matin de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, les premières depuis des mois en représailles à des tirs de roquettes.
Il est 7h05, aucun rendez-vous aujourd'hui Anaïs, à l'agenda de Marine Le Pen.
Elle a prévu de passer la journée chez elle, dans son bureau, pour préparer le débat de demain qu'elle veut aborder différemment d'il y a 5 ans. ans face au même adversaire Emmanuel Macron.
Le débat, c'est très court par rapport à l'ensemble des sujets qui sont ceux qui intéressent les Français. Donc la vraie question, c'est comment faire émerger ce qui apparaît comme prioritaire. Voilà, c'est ça la question que l'on se pose. Ça consiste à ça, préparer un débat. On ne peut pas tout dire, donc il faut décider des sujets ou à l'intérieur des sujets, des éléments qui nous apparaissent structurants pour que l'ensemble des Français puissent comprendre quel est l'objectif de mon projet.
Marine Le Pen hier en déplacement dans le Calvados au micro d'Élodie Fauré. En Allemagne, Marine Le Pen n'avait recueilli que 2,57% des voix des Français votant outre-Rhin. C'est dire si l'hypothèse d'une victoire de l'extrême droite en France inquiète, surtout depuis que la candidate RN a expliqué la semaine dernière qu'en cas de victoire, elle mettrait fin à tous les projets d'armement commun entre Paris et Berlin. Elle a aussi dit que l'Allemagne représentait la négation absolue de l'identité stratégique française. Des prises de position largement commentées dans la presse, Ludovic Piétonu.
Si elle gagne, la France deviendrait un autre pays et l'Europe un autre continent. L'hebdomadaire Der Spiegel l'affirme dans son nouveau numéro cette semaine. Le journal détaille son programme qu'il résume ainsi. C'est un retour volontaire vers un passé que beaucoup pensaient révolu. Elle veut, comme elle le dit, briser la domination supposée de l'Allemagne, faire prévaloir le droit national sur le droit européen, renégocier l'espace Schengen. En pleine guerre d'Ukraine, le projet de paix et de sécurité européen serait remis en cause sous une présidente Le Pen. Avec elle, toute coopération plus étroite entre Européens est une menace, estime le journal. C'est le cancer du nationalisme dont Marine Le Pen est la figure de proue, juge de son côté le quotidien économique Handelsblatt. La France sera-t-elle bientôt sans drapeau européen ? S'interroge la FAZ, le quotidien de Francfort, qui parle du cauchemar Le Pen, dont Berlin serait bien inspiré de prendre l'avertissement au sérieux et de se préparer. Car ses plans sont connus, ils sont les mêmes que ceux de Vladimir Poutine, affirme le journal. Ils visent à détruire l'Union européenne de l'intérieur. Berlin, Ludovic Piétonu, France Inter.
D'autres précédents, comme le vote du Brexit ou l'élection de Donald Trump, le candidat Emmanuel Macron en a parlé hier pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Repenser à ces citoyens qui se disaient « je ne vais pas y aller, à quoi ça sert ?» a dit hier Emmanuel Macron sur France 5. Je peux vous dire que le lendemain, ils ont regretté. Enfin, à noter en marge du débat politique, cette prise de parole d'un milieu peu enclin à s'exprimer sur le sujet. Une longue tribune du monde du rugby publiée dans le journal L'Équipe sur la mort de l'Argentin Federico Martin à Rambourou, mort par balle à Paris et dont le principal suspect est un militant d'ultra-droite. Ceux qui ont assassiné Federico sont aux antipodes de nos valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe sans différence sociale, culturelle, politique, de couleur ou de religion, écrivent les signataires, parmi lesquels Bernard Laporte, Fabien Galthié, Antoine Dupont ou encore Philippe Sella.
Il est 7h08, le monde d'après sera-t-il un aussi glouton que le monde d'avant.
En termes de consommation des ressources de la planète, on attend aujourd'hui les prévisions de la Banque mondiale sur la santé de l'économie. Le Fonds monétaire international tient lui aussi cette semaine sa réunion de printemps. Et pour ces deux institutions financières, la reprise de la croissance n'est pas aussi rapide que prévu, Fabien Cazot.
Un sérieux coup de frein, mais pas encore de récession. C'est ce que la Banque mondiale pronostique pour 2022 et 2023. L'institution s'apprête à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 143 pays qui représente 86% de la richesse mondiale. Principal frein à la reprise économique, l'inflation qui flambe partout dans le monde, plus de 8% sur un an aux États-Unis, plus de 7% en zone euro, sous le double effet de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Le Fonds monétaire international met en garde contre ce qu'il appelle une fragmentation du monde, appelant à aider les pays les plus pauvres en leur fournissant de la nourriture et un soutien financier. Le degré d'incertitude macroéconomique dépasse très largement son niveau habituel, alerte le FMI, qui, au-delà de l'impact de la guerre en Ukraine, s'inquiète aussi du grand retour de l'épidémie de Covid en Chine. Malgré une croissance officiellement annoncée hier à 4,8%, l'économie chinoise voit son activité ralentir dans le nord-est industriel et la consommation fléchir dans l'ensemble du pays.
La plateforme Deliveroo a-t-elle fait travailler ses livreurs comme salariés ou indépendants ? Décision aujourd'hui du tribunal correctionnel de Paris, premier procès au pénal en France de l'ubérisation en mars. Le parquet avait requis la peine maximale. C'est un procès un peu sous les radars qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles, l'autre procès des attentats du 13 novembre 2015. Alors que la 31e semaine d'audience débute à Paris aux assises spéciales, dans la capitale belge débute le procès dit Paris bis, celui qui juge 14 prévenus Charlotte Piret.
Ils sont accusés d'avoir aidé Salah Abdeslam dans sa cavale, mis un appartement à la disposition de la cellule terroriste ou encore d'avoir été en contact avec le le chef des commandos du 13 novembre. Mais pour cela, ils sont jugés à Bruxelles.
De la procédure de Paris B, comme on dit, c'est-à-dire le procès de Paris jugé à Bruxelles, moi je n'y ai rien. Au sens strict, je n'ai rien compris.
Maître Raphaël Kempf, avocat d'Yassine Attar, jugé, lui, à Paris.
Déjà, il y a des différences notables entre notre procès et le procès qui se déroule là-bas. C'est-à-dire qu'en Belgique, c'est un procès correctionnel, alors que nous, c'est un procès criminel. Donc les peines encourues ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si Yassine Attar était jugé à Bruxelles, dans le cadre du dossier des attentats de Paris, il encourrait une peine de 5 années de prison. Là, ici à Paris, il encourt une peine de prison à perpétuité.
Alors, comment s'est fait le choix entre ces 14 personnes jugées à Bruxelles et les 20 qui comparaissent en ce moment à Paris ? On aimerait bien le savoir, déplore-t-on côté défense, surtout pour les accusés qui clament avoir tout ignoré des préparatifs des attentats. Mais le parquet national antiterroriste à l'origine de cette sélection revendique une ligne de démarcation très claire. Sont jugés à Paris les membres de la cellule terroriste ou ceux qui y sont directement rattachables. Les autres, ceux que l'accusation estime plus éloignés, voient donc leur procès se tenir plus discrètement en Belgique.
Et ce procès est prévu jusqu'au 20 mai à Bruxelles. Un bâtiment de bureau vide à Paris, occupé depuis hier par une vingtaine de migrants sans papier et de militants, pour que les gens à la rue puissent avoir un toit sur la tête et s'organiser pour obtenir leurs droits. Le collectif La Chapelle Debout se réjouit de voir qu'il est possible de mettre rapidement sur pied un système d'hébergement pour les Ukrainiens, souhaite qu'il en soit de même pour tous les exilés. Enfin, voilà une initiative qui ouvre l'esprit et permet les rencontres. Vous aviez peut-être déjà entendu parler du Duo Day, quand un salarié fait découvrir son entreprise à une personne en situation de handicap. Voilà l'autre facette de la découverte, ou comment des personnes handicapées accueillent dans leurs ateliers des salariés. Inversion des rôles à l'ESAT, cet établissement d'aide par le travail de Châtillon, près de Paris, à Nornstein.
Dans l'atelier traiteur, Cécile, aux ressources humaines chez Dassault Aviation, est déjà en train de découper les vrapeaux thon que Karim aligne dans les plats de service.
Je lui fais voir les choses, elle le fait bien, elle va très vite.
Voilà, pour moi, je ne suis pas lésat, je suis chez un traiteur avec du personnel motivé, efficace, qui m'a bien appris les choses déjà pour commencer.
Pendant ce temps, Laura, perceuse à la main, quadrille de trous un cube sous l'œil avisé de Laurent.
Elle a découvert le lissage, le perçage, elle se débrouille très bien.
C'est hyper lourd en fait.
De loin, sourire aux lèvres, Alexis Mazurel, le moniteur principal de l'atelier, observe le duo fonctionner.
Pour nous, c'est très important de valoriser leur travail. Certains, on essaie de les guider vers le milieu ordinaire, vers l'extérieur.
À la pause, Cécile promet à Laurent qu'à son retour au bureau, elle se transformera en ambassadrice des travailleurs handicapés.
Ça me motive, je dirais, encore plus de décoller un peu cette image de l'ESAT où on se dit, bah, du coup, c'est moins bien. Si, c'est aussi bien.
Mais ses yeux, tout à coup, s'embuent.
Je suis très, très touchée de partager le quotidien de ces personnes en situation de handicap.
C'est de la rencontre, hein, c'est de l'échange, hein, donc on est enrichi de l'autre.
Laurent, engagé dans une démarche de réinsertion en milieu ordinaire, a peut-être enfin trouver sa future DRH.
Et cette journée s'appelle le Duo 2, 2 comme le chiffre, c'est à l'initiative de la Fondation des Amis de l'Atelier.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 24, à 5 jours du second tour. Débat animé en famille.